Oui, bonjour. Peut-être on va peut-être pouvoir commencer cette table ronde pour ne pas prendre trop de retard pour tous les intervenants. Donc cette fois-ci, on va aborder le côté de l'impact économique de ces maladies chroniques qui, d'après ce qu'on a vu déjà ce matin, explosent et que dans notre paysage de protection sociale pose un gros problème par son impact. Ce sont tous les problèmes des ALD qui sont soulevés. Et comme on l'a vu, ça englobe de nombreuses pathologies métaboliques. Et je pense que pour avoir l'incidence exacte du diabète et de l'obésité, c'est très difficile parce qu'il faut associer tous ces effets complémentaires pour avoir des vrais chiffres de l'incidence de ces maladies chroniques. Donc on est avec des hautes morbidités quand même. Et sur les troubles cardiovasculaires et le cancer également. On voit que l'incidence augmente 4 fois plus vite que la population, l'augmentation de la population. C'est quand même très impressionnant, c'est ce chiffre que tu as donné ce matin, André. Donc on peut parler d'une épidémie, et elle n'est pas que française, elle est vraiment internationale. Et je pense qu'il faut vraiment s'en préoccuper. Donc là, je crois, nous avons des intervenants qui vont faire l'état des lieux. De la situation économique, de qu'est-ce que l'on peut en faire, qu'est-ce que l'on peut prévoir. Moi, j'attends beaucoup de solutions de prospective, comme il y en a eu déjà dans les interventions scientifiques, au niveau et économique et réglementaire. Donc, nous avons comme intervenant le docteur Jean-Martin Cohen-Solal, directeur général de la Mutualité française, qui va nous intervenir en premier, si vous voulez bien.
Bien, bonjour à tous. C'est toujours difficile de reprendre un colloque après une pause. Surtout que je sais que les débats ce matin ont été intéressants et riches, puisque Étienne Cagnard, qui a ouvert avec André ce matin ce colloque, m'en a fait un compte-rendu tout à l'heure quand on s'est croisé à la Fédération. Moi, je suis particulièrement content de la tenue de ce colloque et d'y intervenir parce que c'est des sujets qui sont majeurs pour nous, des sujets sur lesquels, à titre personnel, j'ai travaillé depuis maintenant de très longues années et sur le rôle, la place de la prévention. Et je dois dire que pour quelqu'un comme moi qui s'occupait de prévention dans les années, dans le début des années 80, c'est une grande satisfaction et je le dis à chaque fois, alors certains d'entre vous ont déjà entendu le dire, de voir le progrès de la prévention. On dit toujours qu'on ne fait pas assez de prévention en France, mais je rappellerai aux gens qui sont de ma génération, je pense à Gérard Babs par exemple, de ce qu'était la prévention dans les années 80, ce qu'elle est aujourd'hui. Les progrès que, grâce à vous tous, ont été faits en prévention sont immenses. C'est-à-dire que la prévention est maintenant acceptée et est un fait reconnu par tous, ce qui n'était franchement pas le cas il y a 20 ou 30 ans. Les moyens de la prévention ont été augmentés objectivement, même si c'est toujours insuffisant. La place de la prévention dans le système de santé a accru, même si c'est toujours insuffisant. Mais objectivement, je crois qu'on peut se satisfaire aussi des progrès énormes qui ont été faits. Je dis même que ce n'est pas suffisant, il faut continuer. Mais je pense qu'on peut, dans notre génération, être quand même content d'avoir fait pousser un certain nombre de choses et surtout pas s'en satisfaire, mais prendre ça comme un encouragement que non seulement on a vu que ça s'est installé, mais on voit aussi que ça marche. C'est ça qui est important. Parce que dans notre génération, un certain nombre d'entre nous qui sont des piliers, des militants, je veux dire, de la prévention, on se posait des questions. Est-ce que ça marche? Est-ce que ça ne marche pas? On était regardés par nos confrères avec beaucoup de circonspection, sinon de bienveillance ou de compassion, des fois même. En disant, le pauvre, il faut de la prévention, le pauvre. C'est pas mal, mais bon, par rapport à toute puissance du curatif, on voit que ça a beaucoup progressé et je pense que c'est une bonne chose. Donc voilà, je vais commencer par ça en disant, c'est pas assez, mais franchement, le chemin accompli, on a quand même commencé à mettre des fondations en place. Il faut aller plus loin, surtout, il faut encourager les générations qui nous relayent, qui sont en train de nous relayer, il faut qu'ils nous relayent, d'aller encore plus loin. Mais il y a quand même de gros progrès qui ont été faits et on peut surtout maintenant non seulement partir de réflexion, mais surtout de résultats. Et c'est ça qui est important. Et ces résultats montrent encore plus les chemins. Et les résultats montrent aussi les progrès qu'on a à faire, notamment pour lutter contre les inégalités, j'y reviendrai. Parce que le constat que je fais quand même, avec toute cette évolution, et l'échec majeur qu'on a pu avoir en matière de prévention, disons-le bien, c'est que la politique de prévention ne corrige pas les inégalités, mais au contraire, on voit dans le domaine de la prévention, les inégalités sont encore plus fortes que dans d'autres domaines, dans le domaine curatif. Et on a un effort majeur à faire, donc on a laissé encore du travail pour ceux qui nous relayent aujourd'hui et qui s'occupent de prévention aujourd'hui. Alors je vais revenir maintenant à ce que je vais vous dire, en dehors de ce propos plus luminaire et d'autosatisfaction pour notre génération. En effet, on m'a demandé d'intervenir sur environnement chimique, obésité et diabète. Quel était le constat pour une meilleure prévention avec des aspects économiques et réglementaires? Alors, c'est ce sujet tout à fait intéressant, mais qui mérite effectivement de revenir sur un certain nombre de points. D'une part, objectivement, l'ampleur de l'obésité et du diabète pose des problèmes considérables en matière de santé publique. C'est pour ça d'ailleurs que la Mutualité française, premier mouvement social du pays, avait mis le sujet des maladies chroniques comme numéro 1 de débat de son congrès il y a maintenant 3 ans. Quelques chiffres sur les maladies chroniques dont nous parlons. En France, on estime que 15 millions de personnes souffrent de maladies chroniques et dont un peu plus de 9 millions sont inscrits au régime des affections de longue durée, 1,3 million de nouvelles inscriptions par an, ce que vous parliez de ça tout à l'heure. La croissance annuelle des personnes en affections de longue durée est de 5%, ce qui est absolument énorme. Et c'est pas non plus, c'est à la fois des personnes qui découvrent des maladies de longue durée, mais surtout ces maladies de longue durée se développent. Une précision importante, tous les patients souffrant de maladies chroniques ne sont pas inscrits au régime des ALD. Par exemple, pour le diabète, on estime que les patients diabétiques à 2,9 millions, alors qu'au 31 décembre 2011, un peu moins de 2 millions étaient en ALD. Donc près de 30% ne sont pas inscrits en ALD. Première cause des ALD, le diabète, qui représenterait à lui seul 10 milliards d'euros de dépenses pour l'assurance maladie obligatoire. Le coût du diabète progresse à raison de 1 milliard d'euros par an, c'est-à-dire 10% chaque année, ce qui est considérable. En 2009, le coût des ALD était de 65,5 milliards d'euros, d'après l'IGAS. Les ALD concernent environ 15% de la population, des assurés sociaux, et représentent environ 60% des remboursements. Donc on voit que 15% des assurés sociaux font 60% des remboursements, ce qui pose des vrais problèmes, y compris pour nous, Mutualité, mais globalement pour la gestion des finances publiques. En 2012, 15% de la population, soit environ 7 millions de personnes adultes, étaient obèses en France, en dehors du diabète. Et on voit que l'augmentation de ces périodes dites, l'augmentation du nombre de périodes dites de personnes dites obèses pose de vrais sujets où on voit qu'on rattrape malheureusement des défauts d'autres pays développés. Ces phénomènes touchent l'ensemble des pays occidentaux. Plus de la moitié des adultes vivant dans l'Union européenne sont désormais en surpoids et 17% sont obèses. L'obésité et le tabagisme constituent les plus grands facteurs de risque de maladies cardiovasculaires et d'accidents vasculaires cérébraux, lesquels sont à l'origine de plus de 2/3 des décès survenus dans l'Union européenne. Ce phénomène touche plus fortement les personnes les plus démunies. Mouvement militant, la Mutualité française, ne peut accepter ces inégalités sociales et que ces inégalités sociales soient synonymes d'obésité et de diabète. On le voit en France, on le voit dans tous les pays d'Europe, on le voit dans des pays moins développés, des pays de l'Union européenne moins développés que la France, on voit que la prévalence de l'obésité et du diabète est encore plus forte qu'en France. On voit bien que le diabète et l'obésité sont majoritairement des problèmes de personnes démunies ou de pays démunis. On a d'ailleurs travaillé dans ce domaine-là, la Mutualité, aux côtés de l'Académie de médecine, sur les résultats d'une étude relative au lien entre diabète et précarité dans le département du Languedoc. C'est une étude qui a été publiée récemment et qui montre bien les liens directs entre diabète et précarité. On voit aussi que l'augmentation du diabète, de l'obésité et de l'hypertension artérielle touche particulièrement les bénéficiaires de l'aide alimentaire. La prévalence de l'obésité, diabète, hypertension a augmenté chez les bénéficiaires de l'aide alimentaire selon des études données par l'Observatoire régional de santé d'Île-de-France. En septembre, dans cette population, la prévalence de l'obésité est passée de 30% à 36% chez les femmes et de 11,5% à 18% chez les hommes. La prévalence du surpoids a également augmenté chez les hommes, passant de 28% à 39%. La prévalence de l'hypertension chez les hommes est passée de 36,6 en 2004 à à 50% en 2011 et chez les femmes de 24,5 à 31%. Les bénéficiaires de la CMU sont également plus touchés que le reste de la population en matière d'obésité et de diabète. Tous les médecins le savent bien, et notamment les spécialistes de ces domaines. On voit bien aussi que les départements d'outre-mer sont particulièrement touchés par la crise, sont aussi particulièrement touchés par le diabète, et notamment un département comme la Réunion, d'ailleurs, une région d'ailleurs comme la Réunion, pardon. Et d'ailleurs, nous sommes en train de mettre en place, avec la Mutualité de la Réunion, un programme spécifique de prise en charge préventif et curatif du diabète à la Réunion. Tout montre qu'une approche préventive est indispensable. Outre la mesure des dépenses de santé liées à ces maladies métaboliques et aux complications qu'elles peuvent engendrer, les maladies cardiovasculaires notamment, quelques éléments publiés récemment renforcent la nécessité d'une approche préventive et non curative de l'obésité et du diabète. Les incertitudes autour des interventions bariatriques constituent un nouvel argument en faveur du renforcement de l'approche préventive, même si l'approche chirurgicale peut avoir clairement, mais j'en parle devant des gens qui sont beaucoup plus compétents que moi dans ce domaine-là, un intérêt certain pour un certain nombre de patients. Là encore, c'est un problème d'indication, plus que de système. C'est fondamentalement, on sait très bien que pour des patients, je parle aussi un peu sous mon casque de médecin, pour des patients où c'est indispensable, où c'est un vrai secours. Là encore, c'est un problème je veux dire comme sur un certain nombre de médicaments. C'est, tout ça, c'est un problème d'indication, de bonnes indications, et donc de, quelque part, de protocoles reconnus et de protocoles partagés. La Haute Autorité de Santé recommande bien souvent de ne recourir ni aux médicaments ni aux régimes amaigrissants pour lutter contre le surpoids et l'obésité. Il recommande avant tout la prévention et avant tout les modifications de comportement. Et tout ça vient dès l'école, tout ça vient d'un problème de culture générale, mais tout ça est encore lié aux inégalités sociales. On se rend compte que c'est vraiment, les inégalités sociales sont source effectivement d'inégalités très fortes. L'objectif est de changer les habitudes en tenant compte des aspects socio-économiques, en évitant tout discours culpabilisant, ni en stigmatisant toute obsession sur la perte de poids. En tant que médecin généraliste et en tant que en surpoids permanent depuis un certain nombre d'années, je sais ce que c'est. J'ai souvent tendance à dire, puisque je parle de mon cas personnel, que j'ai perdu quelques tonnes dans ma vie. Et donc, j'essaie aussi de ne pas stigmatiser les autres, pas plus que moi. Pourquoi renforcer la législation? Quelques pistes de réflexion montrant qu'une intervention réglementaire est aussi nécessaire et même indispensable. Dans tout domaine de la prévention et de santé publique, il y a plusieurs facteurs à utiliser. La prévention, la promotion d'un santé ne suffit souvent pas seule. Il faut accompagner aussi par des mesures réglementaires et évidemment des mesures législatives. C'est une utilisation intelligente de tout l'arsenal de mesures, de dispositions qui peut permettre d'atteindre des objectifs. On peut aborder de cette façon le sujet de la directive européenne REACH, et c'est important de l'aborder durant ce colloque. La mise en place du règlement, de ce règlement au Parlement européen et au niveau du Conseil de l'Europe, ce règlement mis en place le 18 décembre 2006, concerne l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation de substances chimiques, REACH, qui trouve son origine dans le constat relatif aux lacunes du système existant. Les lacunes sont les suivantes: l'absence d'informations sur les propriétés de la plupart des 100 000 substances présentes sur le marché communautaire, la différence entre le régime applicable aux substances existantes et aux substances nouvelles, la lenteur dans le programme d'évaluation des substances existantes, les outils limités dans la gestion des risques de ces substances, le problème d'information sur la maîtrise des risques tout au long de la chaîne d'approvisionnement de l'industrie, et enfin le manque de transparence en général sur ces substances. On voit bien qu'il y a un certain nombre de campagnes aussi réglementaires. On a vu outre-Atlantique ou dans des pays, anglo-saxons, où des mesures réglementaires fortes ont apporté des résultats majeurs. On le voit bien d'ailleurs, ce sont de textes réglementaires législatifs qui ont été pris récemment pour limiter la consommation et la distribution de ce nombre de substances alimentaires. Voilà en gros ce que je voulais dire globalement, finir sur la position de la mutualité, mais j'espère ne pas être redondant avec ce qu'a dit Étienne Cagnard ce matin. Être redondant serait moindre des choses, c'est la même chose que mon président, mais on va le répéter d'une autre voix. La mutualité française et ses partenaires ont pris conscience rapidement de l'influence de facteurs autres que la sédentarité et les susceptibilités génétiques et l'alimentation, et notamment l'importance des facteurs environnementaux. Les études scientifiques viennent conforter depuis quelques années cette prise de conscience de l'importance des facteurs environnementaux, ce qui a fait qu'on a travaillé avec notamment André Sicolella depuis de longues années, et que nous avons voulu, nous tenons à ce colloque, et nous, c'est bien que ça se fasse dans le cadre de l'Assemblée nationale. La question qui se pose aujourd'hui, comment proposer au grand public des actions de prévention pour mesure de la santé, adaptées à ces nouveaux enjeux, mais aussi sourcées, ciblées, sans pour autant ni stigmatiser ni inquiéter la population. Il n'y a rien de tel, on le sait bien, en matière de prévention, de promotion de la santé, il faut accompagner, il faut être en empathie avec la population, il ne faut pas l'inquiéter, il ne faut pas la braquer, il ne faut pas la stigmatiser. Tous les exemples d'actions réussies le prouvent bien. Des actions ont déjà été mises en œuvre dans ce sens, par exemple la lecture d'étiquettes sur les produits alimentaires. Aujourd'hui, des avancées dans le domaine réglementaire, sur le modèle du bisphénol A, permettraient de sensibiliser encore plus d'autres produits à risque, les phtalates, les pesticides additifs, les produits ameublants cosmétiques par exemple. Il s'agirait notamment de permettre la traçabilité des substances incriminées pour que les industriels puissent prendre des mesures adaptées et pour que les consommateurs puissent les identifier et faire des choix éclairés. C'est bien ça, les deux bouts de la chaîne, pousser les industriels à faire des choix tout à fait éclairés, mais surtout aussi informer les consommateurs pour qu'ils deviennent des autonomes par rapport à leurs choix. Pour moi, fondamentalement, je finirai là-dessus, la prévention et l'éducation pour la santé, sur laquelle j'ai beaucoup travaillé pendant un certain temps, fondamentalement doit servir à élever le niveau de culture, d'information du public, de tout le public, par rapport à leur propre corps, par rapport à leur propre santé, leur permettre d'être autonomes dans leur choix. On ne doit pas faire le choix à leur place, on doit prendre des mesures réglementaires pour cadrer, mais ensuite permettre à chacun d'être autonome et faire ses propres choix. Et là encore, on se heurte à des vrais problèmes d'inégalité sociale. Et s'il y a un enjeu à traiter pour nous tous, comment faire en sorte de toucher les gens qui ont besoin de cette information et qu'on n'arrive pas à toucher correctement aujourd'hui. Voilà, mesdames et messieurs, ce que je voulais dire en introduction de cette table ronde.
Merci.